à voix nue. À voix nue. Toute cette semaine, Amaury Chardot rencontre Sabine Weiss. Ce soir, photographiée sur commande.
Bonjour Sabine Weiss.
Bonjour.
Avant de devenir la représentante de la photographie humaniste que l'histoire retient de vous, vous avez donc moins de 30 ans, vous êtes arrivée de votre Suisse natale à Paris, vous avez fait vos armes en servant d'assistante à un photographe de mode, et vous voilà donc photographe. Mais il faut bien, j'imagine, pour vous, gagner votre vie, gagner votre croûte. Et donc, vous commencez assez vite à travailler pour la presse, et notamment pour la presse américaine.
Oui, alors au début, je ne travaillais pas pour la presse américaine tout de suite. Qu'est-ce que je faisais à mes débuts de vie de photographe à Paris? Donc j'étais déjà photographe. C'était ça qui a été l'atout de mon travail et de ma vie future, c'est que j'avais un métier. Je savais travailler avec des appareils de format différents, dans des situations très très différentes. Et le métier, c'était un artisanat qui était difficile. Parce que la technique maintenant, vous, avec ces merveilleux appareils actuels, ça vous met au point, ça met la distance, ça change la couleur. La technique était vraiment, moi, la nuit, je dormais pas, je rêvais, j'avais des cauchemars de choses techniques, de couleurs, d'exposition. Bon.
De films pas imprimés ou pas enclenchés ou...
Ça, pas trop. Quelquefois, des rares moments où il y avait des films doublés parce qu'on rebobinait le film pour mettre un autre, et puis alors on se trompait, on doublait les photos,
oui.
Sur exposition. Ça donnait des choses assez bizarres, enfin ça m'est arrivé je crois une ou deux fois, mais quand c'était dans des choses superposées, dans le même sens, c'était pas mal, mais quand il y en avait une en largeur et une en hauteur sur le même film, c'était un peu moins évident. J'ai loupé comme ça une très très belle série avec Callas, Maria Callas, une très très belle série. J'en ai fait d'autres. Mais...
Où est venu s'imprimer quoi? Une photo de votre chat?
Oh, je me rappelle plus ce que c'était. Non, pas mon chat. Non, je me suis jamais tellement attardée sur ma famille et sur mon chat et des choses comme ça.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que j'avais tellement d'autres choses à faire. Moi, j'ai travaillé vraiment énormément. Non, mais là, vous me demandiez ce que je faisais au tout début. Alors, au tout début, j'avais quand même des ambitions, puisque j'avais été à l'agence Magnum, voir si mon travail pouvait les intéresser. Ça devait être en 51, 50, je ne sais pas. Enfin, mais j'avais été chez Magnum pour montrer mon travail, ils s'étaient intéressés, et ils m'avaient dit, mais faites-nous un reportage. Et ils m'avaient demandé d'aller faire un reportage sur deux villages de France qui hébergeaient des handicapés mentaux, pas méchants, mais qui habitaient chez l'habitant, dans des villages. Et j'ai fait donc un reportage sur ces villages. Et j'ai montré mes photos. Ils m'ont interdit de montrer toutes les photos où il y avait des handicapés. Enfin, on voyait même pas que c'était des handicapés, mais c'était un peu des vieux, des machins. Donc, je n'ai pas été engagée à Magnum parce qu'il n'y avait pas les bonnes photos. Maintenant, il faudrait que je les ressorte parce qu'elles étaient pas mal du tout. Bon, où j'en étais? Alors oui, qu'est-ce que j'essayais de faire au début? Du porte-à-porte. Vous avez une belle vitrine. Est-ce que vous voudriez que je vous la photographie et que je vous vende un tirage? Mais c'était des tirages à 2,50. Enfin, c'était vraiment... Ou bien alors j'allais au marché et je disais, je vous photographie le stand et je vous donnerai une photo et puis vous me donnerez un beefsteak. Et puis, curieusement, j'avais un ami et ce garçon travaillait au Printemps. Dans les magasins du Printemps. Il m'avait dit, viens, je te présente à mon patron. Et puis, Et j'étais engagée pour photographier les vitrines du printemps. Chaque fois qu'ils changeaient, et qu'ils avaient des très belles vitrines à l'époque, je faisais ça, les photos de nuit, pour avoir moins de reflets. Et j'étais très contente parce que j'arrivais à faire du 60 à l'heure, 60 clichés à l'heure.
Sacrée productivité.
Bah oui, oui, j'avais l'habitude, c'était très facile, très vite fait. Et ça a duré assez longtemps, une dizaine d'années j'ai dû faire ça. Ça ne me dérangeait pas, c'était vite fait, c'était de nuit, c'était très bien. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Mais très vite, j'ai commencé à avoir trop de travail.
Et donc, une étape qui compte pour vous, Sabine Weiss, c'est qu'en 1952, vous allez donc montrer vos photos au directeur de Vogue.
J'avais eu une photo par hasard de Miro qui avait paru dans Vogue. Et le directeur me demande de venir. Et le jour où je suis allée montrer mes clochards et mes petits morveux, le directeur a trouvé très bien, mais il y avait surtout un petit monsieur à côté qui regardait les photos, qui disait c'est formidable, a tout compris, et c'était Robert Doisneau, qui du coup m'a tout de suite fait engager à RAFO. Je savais même pas qui était ce monsieur, et je sais même pas si je savais qui était Doisneau. Parce que je ne m'occupais pas de photos, il y avait très peu d'expositions.
Il n'y avait pas de livres.
Il n'y avait pas de livres. Aux États-Unis, il y avait des livres sur la photo. Je les ai tous là, mes yearbooks et mes choses. Je suis très fière d'avoir été dans ces livres dans les années 50. Mais à Paris, très très peu. Donc, j'ai rencontré RAFO, j'ai travaillé pour eux.
Mais en tout cas, ça donne un sacré coup d'accélérateur à votre carrière, puisque donc, dans la foulée, vous êtes engagé chez Vogue pour plusieurs années.
Oui, ah oui, ça donne un bon coup, oui.
Et chez RAFO. L'agence où travaille Doisneau.
Oui.
Même. Mais donc, toute cette époque, c'est vraiment la grande époque de la presse. Donc, vous travaillez pour Paris Match, pour Live, pour Time, pour Newsweek.
Alors,
c'est vraiment l'époque bénie de la photo de presse.
Non, ça, c'est un tout petit peu plus tard. Pour les États-Unis, voilà ce qui s'est passé. RAFO avait un partenaire aux États-Unis. Et ce partenaire s'appelait Charles Radeau. C'est lui qui avait fait RAFO. Radeau avait fait RAFO. Et donc, Charles Radeau, qui était un Hongrois d'origine, charmant, qui adorait la photographie, un petit monsieur, avait une très grande... il était très bien avec tous les éditeurs des grands journaux américains. Donc, j'ai été propulsée aux États-Unis par lui. C'est par lui que j'avais... Pourquoi Steichen est venu me voir, c'est parce que Radeau avait parlé de moi.
Pour cette exposition Family of Man de 1955.
Oui, et puis j'ai tout de suite travaillé pour beaucoup de journaux américains. D'abord, le New York Times m'a demandé de photographier New York. Ensuite, ils m'ont envoyé à Washington... je photographiais tout. Je photographiais surtout en Europe des personnalités françaises, genre Rothschild, genre les Haras, genre tout ce qui est bien, qui est la France. Et j'ai beaucoup travaillé donc pour les États-Unis et également aussi pour la nourriture. J'ai fait tous les grands chefs qu'on peut imaginer. Je travaillais aussi pour un journal pour Life et pour Fortune, qui est qui dépend de Life. Et Fortune, je photographiais les fortunés, quoi. J'allais dans un pays et je photographiais les riches.
Et ça, c'était des photos en couleur ?
C'était toujours en couleur, oui.
Ouais, la presse travaillait en couleur à l'époque.
Et c'était quelquefois des reportages complets, mais souvent c'était une photo une photo qui devait symboliser toute la chose. Ça pouvait être Baccarat, ça pouvait être Hermès, ça pouvait être une photo couleur qui devait symboliser le personnage. Très souvent, j'avais une commande pour une pleine page. Et 8 ans, ça m'a beaucoup amusé parce que, je l'ai photographié. Il y avait un peu d'objets de précieux, il y avait un peu de mal, un peu de... Et au moment où je commence à photographier, il s'est mouillé les lèvres, comme on fait pour être... Et il m'a dit, elle est pour moi. Je dis, d'accord. Et je tire la photo, je lui fais un bel agrandissement. Finalement, un jour, je vais chez Vuitton. Je dis, je veux voir Monsieur Vuitton. Il arrive. Il me dit, bonjour madame. Je dis, bonjour monsieur. Peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Non. Je dis, vraiment. Ah, vraiment, vous ne me reconnaissez pas. C'est curieux quand même. Et peut-être que vous ne savez pas non plus ce que vous m'avez fait. Il était tremblant. Je l'ai mené en bateau comme ça. Et pour finir, j'ai dit, vous m'avez tiré la langue. Alors là, il a rigolé, il a compris ce que c'était, mais il a vraiment cru que je venais pour un mauvais coup et de lui réclamer un Dieu sait quoi.
Enfin, vous étiez très à l'aise, Sabine Weiss.
Oui, pourquoi pas. Je suis pas à l'aise avec vous.
Si, mais je veux dire que vous meniez à cette époque une existence que nombre de photographes actuels verraient comme absolument luxueuse. Vous débordiez de commandes et vous
Écoutez,
pouviez...
j'avais tellement de toute façon, c'était pas méchant, je me suis amusée, mais j'avais tellement de travail.
Puisque donc à cette époque-là, pour le dire vite, vous mélangez reportage, pub, mode...
Ah bah tout à la fois.
Vous faites tout.
Ah oui, le bébé à 4h de l'après-midi, le frigo à 9h du matin. Ah oui, non mais ça, j'arrêtais pas.
Alors, Sabine Weiss, la mode.
La mode, oui.
Quel rapport vous aviez avec ça? Ça vous intéressait, la mode? Ou est-ce que finalement, comme tout le reste, vous preniez les commandes qui se présentaient?
Je faisais tout assez sagement. C'est pas que ça m'intéressait spécialement. C'était assez difficile pour moi parce que j'étais pas le genre très marrante avec les mannequins. Or, les mannequins, il fallait quand même mettre la musique qu'ils voulaient, jouer le jeu. Il fallait vraiment jouer le jeu. Mais je jouais le jeu. Mais enfin, ça ne m'amusait pas beaucoup, mais enfin, j'en ai fait pendant des années.
Est-ce que vous auriez un souvenir de cette période pendant laquelle vous travailliez pour la mode? D'une prise de vue, d'une séance de photo particulière qui vous aurait laissé un petit souvenir
ou... J'ai surtout le souvenir de la première de Dior, l'ouverture de Dior, qui était en 47, il me semble, et où tout le monde, toutes les femmes voulaient entrer dans la maison et essayer d'escalader les barrières sur l'avenue Montaigne. C'était assez marrant.
Qu'est-ce qu'elles venaient faire, ces femmes?
Elles voulaient être là pour le premier défilé de Dior, l'ouverture, la première de Dior.
Et donc c'était le public que vous, toutes ces femmes qui stationnent dans un grand escalier en
pierre. Oui, oui, moi j'étais dedans pour photographier. Mais, enfin, c'est pas moi qui photographiais puisque
c'était
Willy Mevald à l'époque, oui. Mais enfin, j'étais quand même là et c'était quand même un événement.
Comment vous évoluez dans ce milieu-là? Est-ce que c'est un milieu dans lequel vous êtes à l'aise?
Bon,
ça
moi,
vous
amuse? Moi, je suis à l'aise un peu partout. Hein, c'est pas... oui. Pourquoi pas?
La mode à l'époque, c'était... On est loin des conditions actuelles. Il y avait, je crois, très peu d'assistants. Vous aviez maquilleur, coiffeur? Ou est-ce que vous faisiez ça vous-même?
Là, à l'époque, les mannequins, la plupart du temps, se maquillaient, se préparaient elles-mêmes. Et c'était assez amusant par exemple, quand j'étais à Vogue, où je voyais les filles qui arrivaient, laides, blafardes, pas appétissantes du tout, et qui se transformaient merveilleusement bien.
Et puis donc, c'était des commandes qui vous donnaient l'occasion de travailler en couleur, vous qui avez quand même beaucoup travaillé.
Il y avait des deux, ça dépendait, mais je travaillais beaucoup en couleur. J'aimais bien travailler en noir parce que c'était quand même une difficulté en moins.
Vous étiez très peu de femmes photographes, j'imagine, à l'époque, non? Quel qu'en soit le milieu.
Il y avait Jeannine Niepce, il y avait... Il y en avait, mais je ne les connaissais pas.
Est-ce que vous étiez considérée de manière différente de vos homologues masculins?
Pas dans les agences et pas dans les clients, mais entre photographes, oui. Quand il y avait des choses de presse, par exemple sur une personnalité importante, il y avait toute la presse qui était là. Alors là, ils me disaient, allez, ma petite dame, laissez faire les photographes. Et ils voulaient me pousser, mais moi, je ne me laissais pas faire.
Et puis alors, Sabine Weiss, il y a d'autres commandes qui vous mènent dans des univers bien plus inattendus. Je crois que vous avez longtemps suivi des sommets soit de l'OTAN, soit de l'OCDE. Racontez-nous un peu comment ça se passait. C'était pour qui ces commandes-là?
Pour l'OTAN, c'était des travaux que je faisais hors de l'OTAN, pas dans les bureaux. Tandis que l'OCDE, c'était des conférences ministérielles où les personnalités, des portraits des personnalités faisant partie de l'OCDE. Quand je faisais les conférences ministérielles, alors c'était assez difficile parce qu'il fallait photographier. C'était des grandes salles de réunion. Il y avait, je sais pas, 80 personnes, je sais pas. Et il fallait que je photographie chaque délégation séparément. Il fallait que je mémorise avant le plan de la salle pour voir combien il y avait de monde pendant chaque délégation. Et alors, quand il y avait les Japonais ou des gens qui typés, il y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, je voyais bien combien de personnes il y avait dans la délégation. Mais les autres, c'était difficile d'arriver. Fallait aller très vite. Très vite, parce que tout d'un coup, c'était, il y a une sonnerie, là, il fallait disparaître. Et quelquefois, il y avait un passage pour entrer dans le carré de conférence, mais quelquefois, il fallait que je me faufile sous la table, avec mon appareil et le fourbi, oui.
Et donc, de la mode à l'OCDE, ces années-là vous conduisent vraiment à des commandes les plus éclectiques. Je crois que vous dites, vous avez une formule pour ça, vous dites de la mode à la morgue.
Oui, j'ai fait des photos à la morgue, oui. J'ai fait des photos à la morgue parce que les gens n'avaient pas de photographie des portraits de leur famille. Et quand quelqu'un mourait, on disait, ah zut, on n'a pas une seule photo. Donc vite, on photographie encore à la morgue le dernier portrait ou chez les gens. Quelquefois, c'était dramatique, quelquefois, c'était très drôle.
Et donc, c'était des familles, des gens qui venaient vous trouver parce qu'ils vous connaissaient par ailleurs et qui vous commandaient un portrait privé.
Oui, mais si je voulais vous raconter la meilleure de cette série, c'était un soir, on me téléphone et on me dit, écoutez, il faut que vous veniez tout de suite, il y a une dame qui est morte, c'est tellement beau et tellement bien. Enfin, je vous dis non, je partais le lendemain au Luxembourg pour photographier Jean Monnet et... Je dis non, 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 enfin, je discute. Finalement, je lui dis, écoutez, ça suffit, j'ai compris. Je perds moins de temps à venir faire la photo. Je prépare mes appareils, j'arrive. On me dit, on va vous présenter au veuf. Le veuf arrive et me prend les mains avec gentillesse et me dit, ma petite madame, mais comme c'est gentil d'être venue. Venez, vous allez bien boire quelque chose. Et... Il m'entraîne dans sa salle de bain. Il ouvre la porte et je vois la baignoire remplie de bouteilles de champagne. Et des gens qui étaient là, qui s'y buvaient du champagne. Alors je bois le champagne, je pose mes appareils, je bois le champagne avec eux. Puis au bout d'un moment, je dis, je vais aller travailler. Et alors le veuf dit, oh, on y va tous ensemble. Alors on se précipite dans la chambre, merveilleuse, immense pièce avec un lit à baldaquin. La reine d'Angleterre n'aura pas un si beau lit de mort avec des plumets hein, au plafond, des trucs. C'était formidable. Et je commence à photographier. Il y avait évidemment la copine du veuf qui trouvait que ça faisait trop chaud, les lampes, les machins. Le veuf disait, c'est merveilleux, on se dirait au cinéma. Alors je photographie et tout, il vient, il me prend les doigts de la morte et il dit, vous avez vu comme elle a les doigts froids. Et est-ce qu'on verra bien le vous avez vu le drap? J'ai pris ce qu'il y avait de mieux, hein. C'est tout repassé, il y avait des petits plis, enfin c'était, la scène était incroyable. Et donc je photographie et tout d'un coup il a un grand cri. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, c'est son mauvais profil. Bon, on a tiré le lit à baldaquin. J'ai été entre le mur et le lit de la morte en train de faire des gros plans, de faire je ne sais quoi avec cette morte. Quand, évidemment, j'ai fait sauter tous les fusibles, que tout le monde est parti, que je me suis retrouvée embusquée avec cette morte dans le noir. Enfin, il y a eu tout. Après, il y a eu le repas. Ils voulaient absolument que je mange avec eux. Moi, je pouvais pas manger. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais écoutez, je vais partir parce qu'il y a mon mari qui m'attend. Je conduisais pas à l'époque. Il m'a dit, oh, mais pourquoi vous lui avez pas dit de venir? Attendez, on va lui faire des sandwichs. Et tout ça se passait avenue Foch, dans une maison somptueuse, naturellement, en fait.
Donc en fait, ces commandes-là, Sabine Weiss vous amène, tout comme les photos que vous prenez pour votre plaisir, vraiment à pénétrer l'intimité des gens. L'appareil photo est un viatique.
Ah oui, oui, ça permet beaucoup de choses. Et surtout quand on a un peu de culot et qu'on frappe à une porte et qu'on dit ce que je peux rentrer, enfin. Non, ça permet de rentrer dans des ateliers, de voir comment les gens... Un cellier ou n'importe quel métier, très intéressant.
Et alors les ateliers, justement, Sabine Weiss, vous photographiez nombre d'artistes pendant ces années-là, à partir des années 50. Je crois qu'il y en a un qui a beaucoup compté pour vous, c'était Giacometti, Alberto Giacometti.
Oui, Giacometti, oui, que je connaissais quand même de Genève, je connaissais bien de Genève. J'étais ami avec sa femme, enfin je le connaissais bien. Vu que j'habitais à Genève, c'est une petite ville, et donc il y avait une place qui s'appelait la place du Mollard, qui était une très jolie place où il y avait des cafés, et là, toutes les artistes, les gens se retrouvaient souvent. Et donc je retrouvais Giacometti et sa femme souvent dans ces mêmes cafés qui étaient un peu le rendez-vous à Genève. Et quand Giacometti est revenu à Paris, moi je suis revenu à la même époque à Paris aussi, et très vite j'ai eu une commande, le premier numéro de L'Œil avec les photos de Giacometti. C'était très bien, c'était une revue importante. C'était important parce que Giacometti, je crois que c'était le premier numéro de la revue.
Mais vous aimiez ce face-à-face de devoir plus ou moins dirigé, parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on dirige un Giacometti ou un Breton.
Ah, un Giacometti, vous ne le dirigez pas. Vous ne le dirigez pas. C'était un homme qui aimait sculpter, toucher, travailler sa terre. J'ai des très très bons souvenirs, parce que c'était un être sympathique, mais enfin intéressant. Quand on discutait avec lui, il ne s'arrêtait jamais de travailler, il s'arrêtait tout le temps de... C'était presque un tic chez lui. Et puis aussi, c'est des souvenirs de son atelier qui était... Il travaillait la terre glaise, enfin. Donc, c'était très poussiéreux. Donc, il y avait une espèce de poussière grise un peu partout. Et lui aussi était un homme... Les couleurs des habits, des machins, c'était un peu gris. Comme ça, et c'était, j'aimais beaucoup cet atelier, et poussait de la rue un petit arbre qui au printemps avait des feuilles vertes claires dans cet atelier gris, et j'ai des souvenirs formidables de cet atelier.
Sabine Weiss, est-ce qu'il y a des personnalités que vous n'allez pas photographier, que vous refusez de photographier?
Non, je ne refuse pas. Ah, j'ai jamais refusé de photographier Franco ou quelqu'un. J'ai pas refusé de photographier, mais j'ai jamais cherché à photographier quelqu'un. Par exemple, j'ai pas de photo de Picasso, alors que j'aurais très bien pu photographier Picasso. Mais j'avais pas de commande pour des photos de lui. J'ai pas eu l'occasion. Alors j'ai pas photographié. J'avais assez de choses.
Vous ne répondiez qu'aux commandes?
Oui, mais je m'en faisais quelquefois à moi. Moi, j'avais la reconnaissance de ce que je faisais. Je savais ce que je faisais. J'avais absolument pas besoin d'exposer. Et j'étais mariée à un peintre, donc c'est lui qui devait exposer.
À tel point, je crois que vous exposez donc dès 1954 aux États-Unis. Je crois que vous exposez dans des endroits extrêmement prestigieux, l'Art Institute de Chicago, la Limelight Gallery de New York, et j'en passe. Et vous n'allez pas voir vos expositions?
Non.
Les quelques-unes qui vous sont consacrées, vous passez à côté?
Non, c'était idiot. J'allais aux États-Unis puisque mon mari était américain. Donc on allait aux États-Unis, mais j'allais pas au moment des expositions.
Vous n'aviez pas envie de voir ce que ça donnait accroché au mur?
Non, moi je savais ce que je photographiais, ça me suffisait. D'ailleurs, les photographies, je ne les montrais jamais. Bon, là, je les montrais parce que je les envoyais à New York par mon agence. Raffo envoyait mes photographies. Moi, je les donnais à Raffo pour qu'elle les vende pour l'illustration sur un lit, une couverture de livre, un article sur un sujet où il fallait une illustration. Mais j'avais pas du tout... Mes photos, je les agrandissais. Et je les mettais dans des boîtes.
Et ça restait dans des boîtes. Vous ne les montriez même pas à vos amis ?
Jamais.
Non, vous n'aviez pas ce petit compagnonnage quotidien ?
Jamais.
Vous n'étiez pas un Koudelka qui vit avec ses tout petits tirages un peu partout chez lui et qui le regarde ?
Non. Jamais. Alors, résultat, j'en ai beaucoup d'anciennes. Ce qu'on appelle vintage.
Mais donc, finalement, la photo était vraiment pour vous un art de la rencontre et un art du moment, Sabine Weiss.
Écoutez, c'est pas, c'était mon gagne-pain. Et j'étais vraiment prise dans un engrenage de travail. Je refusais pas le travail, mais j'avais des demandes tellement différentes que j'étais tout le temps occupée.
C'est une époque qui vous laisse de bons souvenirs ?
Oui, un des bons souvenirs, il y en a, mais une satisfaction, une espèce de, faut dire, une espèce de fierté d'avoir pu faire tant de choses. C'est pas très modeste ce que j'ai dit là, mais c'est vrai que je suis assez fière d'avoir beaucoup travaillé et fait des choses très différentes.
Et encore, n'avons-nous pas encore abordé la grande partie de la photographie humaniste qu'on abordera demain. En attendant, merci Sabine Weiss.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Amaury Chardot avec Sabine Weiss. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin, prise de son Yves Lehorse, Tanguy Le Corneau, réalisation Vincent Abouchard, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. You and I, we two, alone here in this terrace by the sea. The sun is going down and in your eyes I see the changing colors of the sea. It's time for you to go, the day is done. And shadows stretch their arms to bring the night. The sun falls in the sea, and down below a window light we see just you and me. You and I, we two alone here in this bar with dimming lights. A full and rising moon comes from the sea, and soon the bar will close for you and me. But there will always be a song to tell, a story you and I cannot dismiss. The same old simple story of desire, and suddenly that kiss...
Story of desire, and suddenly that kiss, that kiss.